Salut et bienvenue dans Gueule de bois. Je suis Peter Kummel et j'ai écrit le livre « Ça va n'aller ». C'est un livre qui traite d'amour et surtout de dépendance, en particulier à l'alcool. J'ai écrit ce livre parce que j'avais besoin de libérer ma parole, mais aussi parce que je voulais que les personnes touchées par les addictions se sentent moins seules. J'ai créé ce podcast parce que le sujet me passionne et qu'on n'entend pas assez d'informations, de témoignages sur les addictions. Et parce que quand je galérais moi-même avec l'alcool, avec la coke, j'aurais aimé pouvoir entendre d'autres personnes en parler. Ce podcast est fait pour les personnes touchées de près ou de loin par les addictions, pour celles et ceux que le sujet intéresse, pour démystifier, pour déculpabiliser, pour partager. Chaque addiction est abordée à travers quatre regards différents. Celui d'une personne qui consomme, d'une personne qui travaille dans le secteur médical, une personne abstinente et enfin une personne de l'entourage. Pour ce deuxième épisode autour du travail, j'ai la joie d'accueillir Antonia Batchevanova, psychothérapeute à son compte et sur différents projets. Elle était également responsable formation en médiation pour le tribunal de la famille de Bruxelles. Antonia est une psychothérapeute particulière puisqu'elle a suivi beaucoup de formations, dont la kinésithérapie, l'ostéopathie, le reiki, la thérapie crânio-sacrée et la systémique. Elle traite des personnes concernées par le burn-out et autres diagnostics. Et pour finir, elle est la thérapeute de Nora que nous avons entendue lors de l'épisode précédent. Bonjour Antonia.
Bonjour Peter.
Alors vous me disiez qu'il y avait une petite modification que je devais faire dans votre présentation.
Oui, effectivement. Donc j'accompagne les personnes en burn-out, mais plus largement en transition de vie. Et pour faire le lien avec les épisodes précédents et l'intervention de Maurizio, un des enjeux, c'est effectivement d'accepter, de trouver les ressources en soi pour aller vers les changements. Et donc, que ce soit par rapport au travail ou à d'autres comportements, d'autres substances, souvent les addictions sont des stratégies de maintien en deçà du changement. Et donc, j'insiste beaucoup sur le fait que les transitions de vie, ça va bien au-delà d'un burn-out ou d'une addiction pure et simple, et que nous sommes tous concernés par ces enjeux-là, autant au niveau individuel que collectif.
Oui, c'est comme une suite finalement à la crise en elle-même.
Justement, et c'est même ce que la crise appelle en fait.
Ok, ah oui, c'est intéressant. Alors je voulais demander comme première question, pourquoi toutes ces formations et à quoi servent-elles ?
Ah, c'est une question que je continue à me poser après 23 ans de pratique professionnelle. Et donc, pour faire bref, j'ai toujours été inspirée et intriguée par notre fonctionnement comme être vivant et au départ avec une approche extrêmement rationnelle et même mécaniste de la vie et de la personne. Et donc je me suis très fort intéressée au fonctionnement du corps humain et comment aider les personnes à aller mieux à travers leur corps et dans leur corps, mais avec le toucher. Donc et la première formation qui était la kinésithérapie, je me suis rendu compte que ce toucher ouvrait à tout un univers du sensible et du subjectif. Et donc, au plus je soignais les gens au niveau de leur corps, et au plus je sentais le besoin d'affiner ma posture et mes connaissances et mon savoir-faire pour les accompagner comme des personnes globales, et sans m'en rendre compte, je m'acheminais déjà vers une approche intégrative de la santé. Et donc, progressivement, ma représentation de la personne s'est complexifiée en ajoutant des dimensions de plus en plus subtiles, mais aussi de plus en plus collectives et englobantes, d'où la systémique en dernier.
Ok, oui. Et le corps comme outil à part entière? Ou enfin, pas comme outil, mais peut-être comme représentation de ces émotions, enfin de ce qui se passe à l'intérieur.
Oui, tout à fait. Donc, au début, je trouvais ça restrictif d'aborder la personne uniquement à travers son corps et ce qu'elle vivait exprimé dans son corps. Et en bouclant la boucle, en quelque sorte, je me suis rendu compte que Au contraire, le corps permettait d'intégrer toutes les dimensions de notre être et que ce qui s'exprimait, ce que nous exprimions à travers notre corps et ce que notre corps exprime pour nous, en fait, est tellement plus vrai et plus profond et plus essentiel qu'on aurait tendance à le penser au départ.
Oui, parce que justement, ça me fait penser à l'épisode précédent avec oui. Nora, qui dit physiquement que, enfin voilà, qu'à un moment elle a eu une crise très forte où son corps lâchait. Enfin, elle dit mon corps, j'ai l'impression que mon corps criait de oui. Pour que je lâche prise. Mm. Et je trouve ça fort.
Mais c'est très intéressant quand on commence à travailler au niveau psychosomatique, et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment ajouter aussi la dimension verbale, c'est que soit on arrive à élaborer une compréhension, une pensée et un discours, une narration, comme disait justement Maurizio, autour de ce que nous vivons, nous éprouvons, les tensions, les enjeux et les besoins que nous expérimentons, soit c'est quelque chose qu'on a tendance à refouler, et donc c'est à travers ce qu'on appelle communément la somatisation, que cela peut s'exprimer, ou alors des passages à l'acte. Et cela peut effectivement être une mise en danger ou une consommation, mais ça peut être un symptôme physique, mmh. effectivement. Tout notre corps est une plaque sensible, en fait, et un canal d'expression.
Est-ce qu'il y a une ou plusieurs formations qui vous servent particulièrement pour les personnes concernées par le burn-out ?
Certainement une formation plus ponctuelle que j'ai faite, mais qui m'a permis vraiment de passer à la dimension systémique, et c'est une formation à l'écoute, tout simplement. C'est le fait de se mettre à l'écoute de façon ouverte et non jugeante et non interventionniste, qui permet en fait de faire sentir à la personne qu'elle est pleinement accueillie dans tout ce qu'elle vit, dans tout ce qu'elle juge peut-être honteux ou faible chez elle. Et le fait de se sentir accueillie, ça lui réapprend à s'accueillir elle-même et à s'accepter elle-même et à s'entendre elle-même. Et finalement, c'est le début de tout le cheminement de transformation et de guérison. Mmh. Et la deuxième, c'est vraiment la formation en ostéopathie crânio-sacrée, puisque là, on se met à l'écoute par un toucher fin et non interventionniste, encore une fois. On se met à l'écoute des tensions qui s'expriment dans le corps. Et de nouveau, ça permet de reconnecter la personne à elle-même d'une façon sensible.
Et du coup, parce que je lis crânio, mm-hmm. c'est le toucher du crâne alors ?
Voilà, donc on travaille sur l'axe crâne, colonne, bassin, qui est aussi l'axe central physique, mais aussi d'un point de vue symbolique de la personne. Et donc on l'aide mécaniquement et symboliquement, émotionnellement, à se restructurer au niveau de son axe et au niveau de ses appuis, donc au niveau de sa verticalité. Et on travaille également les tensions dans ce qu'on appelle les tissus mous, donc au niveau des muscles, des ligaments, au niveau des organes aussi, et alors au niveau de sa conscience corporelle globale, ce qui est vraiment une autoroute vers une rencontre intime avec soi-même.
Quels sont les symptômes du burn-out ?
Alors, ils peuvent apparaître à différents niveaux d'existence de la personne. Ça peut être des conflits avec l'entourage, ça peut bien sûr être de la fatigue, ça peut être des explosions émotionnelles de type colère ou des effondrements, tristesse, déprime, dépression, perte d'appétit pour la vie. Ça peut être des symptômes physiques. Tout ce qui est de l'ordre du psychosomatique, que ça touche la peau, que ça touche le système digestif. Ça peut parfois être même des fractures de fatigue, donc des fractures spontanées, des inflammations, des pertes de mémoire, des oublis, de la confusion par rapport au temps, on prend un jour pour un autre, on vit un jour plus tôt ou un jour plus tard, on est toujours en avance ou toujours en retard par rapport au temps. Ça peut s'exprimer de multiples façons en fonction de la sensibilité de la personne et peut-être aussi des sources majeures de stress qu'elle vit à un moment donné, là où se, où se trouve le stress dans son contexte actuel en fait.
Est-ce que vous travaillez avec beaucoup de personnes en burn-out ou qui en sortent ou qui sont en transition?
Je pense que c'est le cas pour la plupart des personnes que j'accompagne à différents niveaux. Ce qui est le plus connu, effectivement, c'est le burn-out professionnel. Et souvent, on va s'exprimer au niveau de l'épuisement professionnel, parfois un autre niveau de fatigue et de perte de sens, qui peut être au niveau familial, mais qui peut être à un niveau plus large aussi, au niveau social ou au niveau environnemental, puisque tout ça est en quelque sorte condensé et cristallisé dans notre vie professionnelle. Et comme les enjeux affectifs, même s'ils sont importants, sont parfois relativement mineurs par rapport à la famille ou par rapport au monde dont on ne peut pas s'extraire en fait, alors on va peut-être l'exprimer de façon plus explicite en rapport avec le monde du travail.
Oui, parce que c'est quelque chose de plus concret finalement.
Oui. Et finalement, c'est là où on passe le plus clair de son
oui,
temps.
C'est vrai. Oui.
Éveillé, en tout cas.
Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez remarqué une augmentation de burn-out au fil du temps de votre carrière?
Certainement. Au début de ma pratique, donc j'ai commencé en 1998, c'est ce qui m'a orientée rapidement vers les approches systémiques à partir de cette fameuse formation à l'écoute, c'est que les gens me parlaient beaucoup de ce qu'ils vivaient en famille, dans les conflits interpersonnels, dans leur sphère personnelle, intime. Et progressivement, au fil des années, la proportion dans les plaintes exprimées par les personnes, la proportion prise par les difficultés, les souffrances au travail, ont augmenté de façon exponentielle. Oui. Et aujourd'hui, je dirais que c'est moitié-moitié.
D'accord.
La part prise par le travail au niveau des plaintes exprimées, et il y a beaucoup, beaucoup aussi de liens et d'interdépendance entre les plaintes au travail et les plaintes liées à des souffrances vécues dans la vie privée. Oui, c'est difficilement dissociable, en fait.
Est-ce que, enfin, parce que du coup, vous liez les deux, mais j'imagine que ça a été encore moins dissociable pendant la période du confinement avec le Covid? Etc.
Ah oui, donc là je pense qu'il y a une véritable émergence au niveau de la conscience individuelle et collective, puisqu'on s'est rendu compte qu'à partir du moment où le travail a fait irruption dans la vie privée, dans l'espace privé de la vie des personnes et des familles, cette perte totale de frontières et de repères a fait que les violences, les frustrations, les difficultés vécues au travail s'exprimaient directement et la vie privée faisait caisse de résonance en fait à toutes ces pressions et à toutes ces souffrances qui venaient du monde professionnel.
On a un petit bruit de fond qui est... Arc-en-ciel, c'est ça?
Oui, donc Arc-en-ciel, c'est ma petite assistante à quatre pattes qui fait partie intégrante du dispositif d'accueil des personnes, enfants et adultes d'ailleurs. C'est un petit King Charles noir et elle adore aller accueillir les gens dans la salle d'attente et les accompagner jusqu'au cabinet. Et pour les enfants de tout âge, elle fait merveille.
Et ça, c'est venu naturellement ou c'était votre idée?
Alors, c'est plutôt son idée à elle, parce qu'il y a encore quelques années, je consultais essentiellement chez moi et elle insistait très fort pour venir au cabinet pendant que les patients y étaient. Et un jour, elle m'a eu à l'usure et je n'en pouvais plus de l'entendre derrière la porte. Et donc, j'ai ouvert la porte et elle a couru comme une flèche et elle s'est installée sur mon fauteuil face à la personne et elle n'a plus bougé. Et contre toute attente de ma part, elle a eu un effet très bénéfique sur la personne qui était là présente au cabinet et je me suis dit pourquoi pas essayer. Et finalement, elle a été très vite adoptée par et les patients et les collègues, puisqu'aujourd'hui je travaille dans un cabinet partagé.
Est-ce qu'il y a des caractéristiques propres aux personnes sujettes au burn-out ?
Alors, il y a quelques points communs. Et c'est vraiment très touchant parce que souvent, quand les personnes commencent à réaliser dans quelle situation de santé globale elles se trouvent, elles le vivent souvent comme un échec ou comme un signe de faiblesse. Et en fait, et c'est loin d'être uniquement un discours stratégique, mais ce sont justement les personnes qui ont une grande force de travail, qui ont un grand sens des responsabilités et qui sont particulièrement compatissantes aussi et donc ouvertes aux besoins et aux attentes des autres, qui sont les plus vulnérables à ces formes d'épuisement en fait. Puisqu'elles ont, sans s'en rendre compte, elles ont tendance à s'oublier elles-mêmes. Et une autre caractéristique, peut-être plus intime, c'est souvent, donc il s'agit souvent de personnes qui ont une enfance d'une façon ou d'une autre difficile, où elles n'ont pas pu vivre pleinement leur être enfant et être adolescent. Et donc, il y a peut-être une certaine fragilité par rapport au fait de se connaître soi-même et d'être intime avec soi-même suffisamment pour ne pas s'oublier dans des contextes particulièrement exigeants. Et ça peut devenir une pente glissante, effectivement. Mais c'est aussi l'opportunité, quand le burn-out arrive, de se consolider à ce niveau-là.
Oui. C'est un peu que, comme on parlait aussi dans l'épisode précédent, je ne sais plus si on en parlait, mais la notion des limites à placer et qui n'est pas toujours évident.
Effectivement, et pour pouvoir les placer et les placer de façon efficace, assertive et acceptée déjà par soi-même et les faire comprendre, accepter par les autres, dans le cas idéal. En fait, cela demande d'être suffisamment conscient ou consciente de soi-même et de ses besoins, non seulement liés à sa survie, mais également à sa qualité de vie, à l'expression de soi, à son épanouissement. Et quand on n'a pas suffisamment vécu d'enfance et d'adolescence insouciante, c'est quelque chose qui est fragile et qu'un contexte peut venir, un contexte exigeant ou même abusif, alors peut venir amplifier cette fragilité-là jusqu'au point de la révéler, en fait.
Oui. Et la première partie où vous parlez du fait de, enfin, des personnes plutôt perfectionnistes, enfin, impliquées, je trouve ça toujours amusant parce que c'est pas quelque chose qu'on connaît. J'ai l'impression, quand on parle du burn-out, très souvent, on a une idée un peu limitée de la chose où on se dit... c'est quoi ces feignasses quelque part parce que oui, soi-disant elles savent plus aller travailler, alors que c'est justement tout le contraire, et c'est ça le problème, c'est toute l'implication de ces personnes pour leur travail qui fait que à un moment en fait elles ne savent plus donner parce qu'elles ont trop donné.
Oui, c'est vraiment très touchant, d'autant plus que ce sont des jugements que la plupart des personnes en état de burn-out ou à la limite du burn-out. Et heureusement, il y a des personnes qui commencent à se poser des questions et à sentir le mal-être de façon suffisamment prégnante avant d'aller trop loin et donc de pouvoir s'en sortir, je vais dire entre guillemets, à moindre coût, parce que c'est un sacré chemin après pour s'en sortir et pour s'en remettre. Mais très souvent, quand les personnes arrivent en consultation, elles ont intégré ce jugement négatif sur elles-mêmes. Et donc, c'est très difficile aussi d'accepter, de se donner les moyens de se rétablir, puisqu'on se dit qu'on n'en a pas trop fait et qu'on n'en fait pas assez. Voilà.
C'est vraiment une pensée collective et qui oui. Est imprégnée.
Oui. Et où finalement, on devient tellement dur avec soi-même.
Oui, oui. Ouais. Et je pense qu'on l'est déjà au départ aussi.
Oui. Avec une tendance à s'oublier ou en tout cas à minimiser certains besoins qui sont vitaux mais qui ne sont pas suffisamment reconnue et donc assumée.
Je discutais avec une amie et on parlait du contexte du travail dans lequel très souvent on a envie, enfin, on se dit bon ben, on va mettre des limites parce que on sent bien que sinon ça n'ira pas, parce que ça a déjà été trop loin. Mais quand on le fait, malheureusement, ça pose problème à la personne qui est à côté parce que du coup elle travaille double. Et on retrouve ça, je trouve, dans plein de secteurs où il y a de moins en moins de salariés. Et du coup, il y a une charge de travail qui est beaucoup plus grande. Mais si la personne décide de prendre soin d'elle-même, c'est au détriment de ses collègues. Et il y a un truc comme ça un peu dommage parce que je vois des contextes comme parce que j'ai été vendeuse quelquefois, par exemple chez H&M. Et chez H&M, il y a vraiment, c'est vraiment une usine. Et les personnes qui y travaillent, très souvent, il y a un moment où elles sont malades. Et du coup, au sein même du personnel, il y a beaucoup de critiques envers les personnes qui tombent malades. Mais même les mêmes personnes qui critiquent sont celles qui tomberont malades dans un mois parce qu'elles en auront trop fait, parce que justement, les autres personnes n'étaient pas là. Et c'est un truc sans fin comme ça. Et c'est dommage parce que finalement, ce ne sont pas elles le problème. Le problème vient d'au-dessus.
Tout à fait. Donc vous pointez vraiment quelque chose qui est extrêmement touchant. Et donc, j'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez amené votre expérience à travers votre livre. Et vous avez dit, mais vous avez utilisé le mot amour. Et effectivement, je pense que l'enjeu, il est là. Quand vous dites, il faut mettre des limites. Et en fait, c'est pas tellement aller contre certaines choses. Oui, il faut pouvoir résister et se protéger de certaines choses qui nous envahissent, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Mais c'est surtout en s'ancrant dans l'amour de soi et des autres, et donc des besoins à la fois individuels et collectifs, qu'on arrive à tenir bon et qu'on fait bouger les lignes, autant sur le point de vue, du point de vue individuel que collectif. Puisqu'effectivement, une entreprise, c'est aussi un système. C'est comme une famille symbolique. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que l'on va revivre dans notre environnement professionnel qui sont de même nature que celles qu'on a vécues et qui se sont exprimées dans notre système familial. Et d'ailleurs, c'est une opportunité pour transcender des difficultés et des blessures de façon décalée et symbolique. Mais ce que vous pointez, qui est très juste, c'est qu'au début, on le vit comme un conflit de loyauté. Si je prends soin de moi, j'abandonne mon collègue, j'abandonne mon mandat, j'abandonne ma mission. Alors oui, par exemple, dans des grandes structures ancrées dans des modèles capitalistes, voilà, comme la grande distribution, ça se vit d'une certaine façon. Mais quand il s'agit de soins aux personnes, des personnes qui sont engagées dans des projets de société, les soignants, voilà, les personnes qui travaillent aussi dans un service à la personne d'une façon ou d'une autre, elles le vivent encore à un autre niveau. C'est-à-dire que si elles, à un moment donné, elles veulent même se sauver, même physiquement sauver leur santé, leur équilibre de vie, leur famille, leur couple, elles vivent comme abandonnées, ben voilà, des personnes qui sont à la rue, des personnes qui vivent des violences, des personnes qui sont dans un pays en guerre, et là ça crée des conflits intérieurs énormes, et ça demande d'énormément ouvrir en fait la conscience du contexte dans lequel on se trouve et de se rendre compte que notre épuisement et notre souffrance personnelle, eh bien, nous sommes porteurs de symptômes de quelque chose qui se vit à un niveau collectif, à un niveau systémique, et qu'il faut s'aimer d'autant plus soi-même, et donc soyez le changement que vous voulez voir advenir dans le monde, pour pouvoir aider les systèmes petits et grands imbriqués, pouvoir aussi transitionner, se transformer et se guérir. Et à ce moment-là, on peut dire non avec amour, et avec toute cette conscience que ça met tout le système en crise, mais il ne faut pas garder la crise à l'intérieur de soi parce que ça nous fige, mais ça fige aussi le monde en fait.
Oui, finalement ça n'aide pas.
Ça n'aide pas. Et accepter qu'on doit aller dans la crise et que chacun doit prendre sa part dans la crise. Et souvent on a tendance à protéger, surprotéger son entourage et les autres, mais en fait ça ne protège personne.
Et du coup, on revient à la base de la crise qui est le changement et qui est bénéfique en fait.
Exactement.
Et la crise comme quelque chose de positif.
Oui, à condition de l'accepter et à condition de laisser partir tout ce qui doit partir. Et c'est ce qui fait qu'une crise est forcément douloureuse parce qu'on doit renoncer à des choses. Mais on doit renoncer à quelque chose qui finit par être mortifère alors que peut-être qu'au départ ça ne l'était pas, pour pouvoir dire oui à la vie à nouveau. Et c'est parfois très confrontant, d'où l'utilité d'avoir du support et dans son entourage, quand c'est possible, et parfois c'est nécessaire de l'avoir d'une façon professionnelle.
Quel est le rôle de la famille chez les personnes concernées?
Alors, c'est complexe et c'est très riche.
Oui, surtout que j'imagine que ça dépend d'une famille à l'autre.
Exactement. Souvent, on va se rejouer dans le rapport au travail. Soit une loyauté familiale où on va rester fidèle à certains principes, à certaines valeurs, soit vouloir réparer à travers un choix d'études, un choix de réalisation professionnelle surinvesti, un manque qui a été vécu à un autre étage de la famille, chez des parents, chez des grands-parents, chez des frères et sœurs. Soit on va rechercher comme façon de se valoriser et d'exister et peut-être même de fuir un environnement familial trop oppressant, parfois même de vouloir chercher une autonomie, ne serait-ce que matérielle, une façon de fuir ou de s'émanciper d'un contexte familial trop fusionnel ou enfermant. Mais parfois, la famille, ça sauve parce que ça tire une sonnette d'alarme, parce que ça devient confrontant, parce que quelqu'un dans l'entourage familial, à un moment donné, va dire non, va peut-être même aller jusqu'à une rupture ou à une prise de distance forte dans la relation, mais ça peut être aussi salvateur.
Une nouvelle question, peut-être aussi fort générale, mais je la tente quand même. Quel type de travail font les personnes concernées par le burn-out?
Alors, moi je vois deux grandes catégories. Donc soit des personnes qui travaillent dans des contextes où le but est de générer un profit matériel et où à un moment donné elles se sentent en porte-à-faux, en perte de sens, mais elles se sentent aussi devenir quantité négligeable au service de ce profit, même si elles ont des stimuli intellectuels, elles ont un environnement social par ailleurs valorisant, et que leurs talents peuvent être mis à contribution. Et donc c'est l'objectif dans lequel leurs talents sont mis à contribution qui, à un moment donné, les mettent en crise, et dans le fait qu'il faut toujours plus, en fait, et que
oui, ça suffit jamais.
Ce n'est pas aligné avec le fonctionnement de la vie, et donc de la vie en soi, et dans sa vie personnelle. Donc à un moment donné, ça rentre en conflit, et ce conflit devient intérieur. Soit ce sont les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, travaillent au service des autres, donc amènent un service aux personnes ou au groupe. Et à ce moment-là, on n'arrive jamais à répondre à tous les besoins, à toutes les attentes, et on a l'impression que c'est jamais fini, que c'est jamais assez. On est toujours confronté à la souffrance des autres, ou à des mises en danger, à des situations humaines difficiles. Et à ce moment-là, on s'épuise aussi.
C'est amusant, entre guillemets, parce que Nora, elle fait peut-être partie de la première catégorie où il y a peut-être parfois perte de sens dans ce qu'elle fait. Et la personne que je vais accueillir pour le prochain épisode, ce sera Lisette Lombé, et qui en fait était... qui a fait un burn-out, mais qui travaillait dans l'enseignement et qui était aussi coach professionnel, je pense, mais qui du coup là était dans la deuxième catégorie, qui était plutôt le service aux autres.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, puisqu'effectivement Nora a dit que ça lui avait fait beaucoup de bien de faire son doctorat et que les sciences humaines s'étaient presque imposées à elle-même et d'elle-même dans sa réflexion, dans la construction de son projet et que, in fine, ça lui avait fait beaucoup de bien. Et donc, en fait, c'est le fait d'aller trop loin dans un extrême en oubliant l'autre pôle. Soit on va très fort dans une rentabilité matérielle d'une façon ou d'une autre au niveau de l'efficacité, de la performance, et à ce moment-là, on oublie les besoins sensibles liés au vivant, soit on est tellement engagé par rapport au vivant qu'on en oublie ses besoins de base, de sécurité, de stabilité, de confort et de bien-être. Et finalement, c'est dans les extrêmes que l'on se perd et qu'on finit par se faire mal ou laisser le contexte nous faire mal, en fait.
Et c'est fou comme ce sont toujours des choses qui reviennent aussi, l'équilibre à trouver et qui reflètent les addictions aussi.
Certainement. Peut-être qu'on essaye de compenser un déséquilibre en créant, mais on finit par créer un autre déséquilibre. Et effectivement, ça a été bien souligné dans les interventions précédentes, c'est qu'on finit par croire que le produit ou le comportement nous permet, on ne peut plus s'en passer parce qu'on en a besoin et que c'est finalement lui qui nous permet de faire avec, de faire face ou d'oublier quelque chose. Et qu'on en perd son pouvoir personnel, en fait. Et finalement, toutes ces crises, que ce soit par rapport à une addiction à une substance, par rapport ou par rapport au travail, ou même par rapport à une personne, c'est qu'on finit par perdre son pouvoir personnel, puisque sans s'en rendre compte, on l'a délégué à quelqu'un ou à quelque chose d'autre. Et tout ce chemin de retour à soi, c'est le chemin, effectivement, de la guérison et de la libération.
Est-ce que, selon vous, les femmes sont plus sujettes au burn-out?
Ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a un réel enjeu du rapport masculin-féminin, autant dans la vie des personnes touchées par le burn-out que dans leur monde intérieur, qu'au niveau des valeurs incarnées au niveau collectif dans nos sociétés occidentales. Je pense que les hommes et les femmes ne vivent pas le même type de burn-out. Et peut-être que les femmes, avant les hommes, ont été fragilisées face au burn-out et aux différents types d'épuisement, puisque en une génération ou deux, l'émancipation de la femme s'est d'abord faite au détriment de leur façon de vivre leur féminité, qui peut être tout à fait multiple, et ça d'ailleurs Nora l'a aussi exprimé, mais voilà, moi j'ai dû m'imposer dans un monde d'hommes, et les conseils que j'ai eus de la part de mon père, c'est d'utiliser le langage et la posture masculine pour survivre dans un monde trop ancré finalement dans des valeurs masculines, mais qui finissent par être réductrices, puisqu'il faut se battre, c'est gagnant-perdant, c'est toujours dans une compétition, c'est à la dure. Et finalement, cela met tout le monde en souffrance, puisque que l'on soit homme ou femme, on a aussi une part féminine en nous qui a besoin de collaboration, d'harmonie, de solidarité. De paix, de créativité, de communication non violente. Et donc, je pense que pour arriver à viser une certaine forme d'équité dans leur vie, les femmes ont pris sur elles d'autant plus de contraintes, d'autant plus de défis, en oubliant leur part sensible, en fait, ou en étant obligées de la laisser de côté pour s'imposer et pour arriver à une certaine autonomie, à une certaine reconnaissance. Mais ce qui est vraiment réjouissant aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment, aussi au niveau individuel et collectif, une évolution de cette conscience, et même par rapport aux enjeux de société, aux enjeux climatiques, donc à un niveau très très global, on se rend compte que le féminin et le masculin, en termes de valeurs, en termes de modèles du monde et en termes de besoins, doivent absolument apprendre à collaborer et à coexister pour que nous puissions survivre et pour que nous puissions nous unifier. Voilà, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit au travail, et pour trouver des modes de vie désirables et durables et que l'on qui puisse être transmis en fait aux générations futures également.
Je trouve que ça se ressent de plus en plus, que en tout cas il y a une nécessité peut-être d'amener le point de vue féminin, enfin en tout cas sa sensibilité, etc. Même si peut-être aujourd'hui on remarque même que la sensibilité féminine peut se retrouver chez l'homme aussi et vice versa. Enfin que peut-être au fur et à mesure on va se rendre compte aussi que on a toutes ces parts-là, mais qu'elles sont plus valorisées chez l'un que chez l'autre.
Oui, certainement. Et je pense que c'est vraiment le défi de notre génération et de ce siècle-ci. C'est ce qu'on appelle aussi une transition intérieure, c'est d'arriver à s'unifier dans son masculin et son féminin en soi, pour pouvoir transmettre des propositions équitables, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie privée, de pouvoir initier des relations où le féminin et le masculin de l'être puissent être mis au service des projets sur lesquels on collabore et que l'on porte ensemble, en fait.
Oui.
Et de nouveau, on est le germe de ce changement que l'on peut voir advenir dans le monde, et le fait de se mettre au travail intérieurement, et c'est souvent des crises, et ça vient souvent à partir du travail ou du conflit vie professionnelle, vie privée, qu'en fait on se met vraiment au travail intérieur par rapport à ça, et à ce moment-là on se rend compte qu'on peut mettre ce travail intérieur au service du monde, même à une toute petite échelle en fait.
Et je pense aussi, je me demande, parce que là, on parle plutôt de la psychologie, enfin, de l'aspect mental de la chose, mais je me dis que concrètement aussi, la femme a commencé à travailler il n'y a pas si longtemps, mais elle travaillait déjà à la maison. Et quelque part, c'est comme si elle avait maintenant un double job. Enfin, et que du coup les tâches qu'elle a maintenant à faire au quotidien ont doublé, et que c'est non seulement c'est énergivore dans le cadre du travail de devoir taper du coude de nouveau pour se faire entendre, pour dialoguer dans un contexte un peu plus masculin, mais en plus on est déjà épuisé par tout ce qu'il y a à faire à la maison. Et je pense que même si là aussi il y a de la conscientisation, etc., qu'il y a beaucoup pour les couples hétéros en tout cas d'hommes qui commencent à se rendre compte, enfin qui font attention, mais c'est encore fort présent malgré tout.
Certainement, c'est un changement vraiment au niveau des modèles très 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 profondément inscrits en nous, et même dans les structures sociales, avec les problèmes de trouver une garderie, trouver une crèche, trouver une place à l'école. C'est sûrement des tensions qui nous traversent profondément et à différents niveaux, et de nouveau, c'est une responsabilité partagée. Les femmes doivent continuer, et c'est un travail, une charge en plus très forte, c'est de revendiquer et de dialoguer pour trouver des nouveaux compromis et des nouveaux équilibres, mais c'est aussi l'entourage, et y compris les partenaires et les collègues, mais qui doivent changer en même temps que l'équilibre des femmes change, mais c'est aussi au niveau des sociétés, puisque le rapport au travail, les droits parentaux, voilà, on a vu tous ces enjeux d'ailleurs au moment des différents confinements, c'est qu'on mettait les familles, mais les mères encore plus, où c'est souvent, par exemple, les femmes qui prennent soin des personnes âgées dans la famille, ou qui sont malades, ou qui sont en situation de dépendance, eh bien, de nouveau, effectivement, les femmes se retrouvent fragilisées. Et donc, c'est aussi tout un travail dans les structures sociales, administratives, professionnelles et dans la conscience collective que ce travail doit continuer à se faire.
C'est sûr.
On est en plein dedans.
Oui, c'est vrai. Et c'est un sujet complètement politique aussi, puisque, par exemple, le congé de paternité, je crois que ça augmente au fur et à mesure d'un ou deux jours. Je veux dire, je crois qu'on est à 2 semaines maintenant, mais c'est rien.
Oui. Bon, il y a des pays quand même où...
Oui, ça, c'est génial.
Voilà,
hein, ça,
c'est génial. Plus progressiste.
Ouais.
On l'appelle de tous nos voeux ici. Hein.
Oui.
Ça ferait du bien à la santé publique.
Ah oui. Comment remonte-t-on la pente ?
Alors, je pense que la moitié du chemin est fait quand on a accepté sa situation de vulnérabilité. Et donc, faire le deuil de la toute-puissance, c'est l'enjeu majeur. Celui-là est le fait d'accepter de montrer sa vulnérabilité et tous les risques objectifs parfois que cela comporte de la montrer à l'entourage. Et donc ça demande d'abord d'affronter ces peurs les plus profondes, qui ont été elles-mêmes les moteurs de cet excès de surengagement et finalement à l'origine de l'épuisement. Donc en essayant d'éviter d'être confronté à certaines peurs et à certaines fragilités intérieures, on a mis en place des stratégies d'évitement qui finalement nous ont mené droit à ce mur-là. Et donc il faut prendre le temps vraiment d'accepter sa vulnérabilité, ses limites, de faire face à ses peurs, et de se donner le temps. Ça, c'est déjà la moitié du chemin. Et après, c'est vraiment un pas à la fois, en recommençant par le corps. Là, il faut mettre le corps au centre. Le corps, c'est l'alpha et l'oméga de la guérison.
Ça me parle beaucoup, la vulnérabilité. En ce moment, j'ai ma nouvelle expression où je me dis... parfois où j'avance et je suis sûre de moi pour telle ou telle chose. Mais je sens qu'au fur et à mesure de cette assurance et de mon avancement, je m'éloigne de plus en plus de moi aussi. Et vient un moment où j'ai un obstacle, quelque chose qui me confronte, et où là je me dis, oulala, il va falloir que je fasse vœu de vulnérabilité et que j'admette, que peut-être là ou là, il aurait fallu lâcher prise en fait, et comme... une notion aussi de contrôle.
Je pense que cette question-là est vraiment, en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment au cœur de nos existences humaines et que le bonheur, en fait, vient en renonçant à suffisamment de choses pour pouvoir laisser la priorité à ce qui est vraiment essentiel à notre vie, mais dans le sens de nous sentir vivants et de nous sentir heureux d'être vivants. Et souvent, on pense qu'on a besoin de tellement de choses, surtout dans notre culture occidentale, sur le plan matériel. Et en fait, comme on dit en anglais, less is more, c'est vraiment un chemin d'humilité où on se dit, je suis obligée de faire avec moins. Et en fait, on se rend compte qu'on trouve des trésors mais qui sont beaucoup moins ancrés dans le matériel. Bien sûr qu'on a besoin d'une sécurité de base, et celle-là, il faut vraiment la consolider aussi. C'est un des enjeux dans les processus de soins et de guérison par rapport au burn-out. Mais c'est vraiment refaire alliance avec la vie, en fait, avec un grand V.
Est-ce que vous acceptez encore des patients ? Et si oui, où est-ce qu'on peut trouver vos coordonnées ?
Alors oui, j'accepte encore des patients, heureusement d'ailleurs, puisque c'est le meilleur signe que les gens vont mieux et qu'ils clôturent leur thérapie et qu'ils espacent leurs séances et qu'ils deviennent tout à fait autonomes, puisque c'est vraiment le but. C'est que les gens n'aient plus besoin de moi, même si moi je reste disponible, même si... voilà, parfois on sent le besoin de revenir ou de faire une séance de mise au point. Voilà, et donc, bien sûr. Alors, le plus simple, c'est mes coordonnées se trouvent sur mon site internet, donc écosystémique au pluriel.be, avec ou sans tiret d'ailleurs. écosystémique.be et donc toutes mes coordonnées sont là.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter ?
Alors, oui, je pense que une crise de vie comme un burn-out professionnel en particulier ou une autre forme de burn-out, en fait, c'est une crise globale, c'est vraiment existentiel, c'est aussi un besoin de se reconnecter à soi-même et de faire un travail de clarification à différents niveaux. Et la plupart du temps, ça demande soit espacé dans le temps, soit en même temps, une prise en charge pluridisciplinaire. Puisque il y a des personnes qui sont spécialisées dans l'accompagnement corporel, d'autres dans l'accompagnement verbal. Il faut peut-être faire une mise au point nutritionnelle. Il faut voir comment on nourrit son monde intérieur, sa vie intérieure, sa vie spirituelle au sens large. Et donc souvent, ça demande d'aller explorer différentes facettes de soi et en équipe. Voilà, c'est pour ça que moi, j'ai voulu créer une équipe. La cellule burn-out et transition de vie, pour pouvoir aussi nous soutenir en tant que professionnels et pour pouvoir partager des connaissances, mais pour pouvoir aussi offrir l'accompagnement le plus adapté et sur mesure pour chaque personne, puisque les besoins ne sont pas toujours les mêmes.
Merci beaucoup, Antonia.
Merci à vous, Peter K.
Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Gueule de bois sur radiopanique.org et sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Nous nous retrouvons le mois prochain en compagnie de Lisette Lombé, Lisette poétesse slameuse, qui nous parlera du burn-out et de la magie qui a opéré lorsqu'elle a vécu le sien.